Commencez 2021 en faisant la nique, modestement, à la distanciation sociale avec la réécoute d'un pop and co dédié au slow. Et c'est une scène de roman qui plante le décor. Une scène de bal du 14 juillet, écrite par Nicolas Mathieu dans son livre « Leurs enfants après eux ». Je vous lis l'extrait. Dans les décolletés, l'œil dénichait des moiteurs. Engoncés, faussement cool, les ados s'épiaient sur le bord de la piste, l'œil en forme de poignard. À chaque génération, l'envie avait toujours cette même timidité à vaincre. C'était quand même chiant de ne pas savoir s'y prendre. Et un peu plus loin, Nicolas Mathieu écrit « Les deux mômes bougeaient enfin avec une langueur de méduse ». Nous y sommes. Avant la frénésie, plus ou moins flippée, de cette nouvelle année, leur avenir va donc se dérouler dans cette fameuse langueur de méduse. Grandeur et décadence du slow, c'est le sous-titre de cette émission. Comment il naquit? Comment il vécu? Comment il est mort? Mais peut-être bouge-t-il encore? Après avoir tenté de répondre à ces questions abyssales, on rejoindra Claire Pommet, dite Pomme. Ça se passera dans un studio où l'une de ses chansons a pris forme. Ce matin, on ressoulève donc le capot d'un de ses morceaux. Bonjour et bonne année, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Au siècle dernier, je veux parler précisément des années 50 et 60, l'adulte fut parfois désigné par l'expression « vieux croulant ». Dans les journaux, à la télé, à la radio, le vieux croulant s'intéressait à une créature nouvellement apparue, le jeune. Et micro au point, les reporters partaient sur le front de la jeunesse.
Si vous êtes contre le côté trop vaste, trop grand du dancing, et si vous n'aimez pas davantage l'ambiance particulière des boîtes, vous pouvez toujours organiser une surprise partie.
Vous attendez combien de monde, combien de personnes?
Une vingtaine de personnes.
Et c'est la coutume que les jeunes filles viennent un peu à l'avance pour aider?
Ah oui.
Et quelle différence faites-vous entre une atmosphère de surprise partie et une atmosphère de boîte?
L'atmosphère de surprise party, c'est beaucoup plus familial. On est tous entre amis. D'abord, on se connaît tous. Vous voyez, on est tous de la même école.
Oh, mais il y a moins d'aventures, peut-être.
Oui. Enfin, tout dépend.
Alors, qu'est-ce qu'on danse maintenant dans les surprise parties à Paris?
Bah, écoutez, dans nos surprise parties, on danse le bop, on danse des slow, on danse, et puis alors des danses rigolotes, mais très démodées, comme la valse, le charleston, etc., etc.
Et le tango. On danse le tango?
Oui, ça nous arrive.
Mais pourquoi le slow est apparu?
Only you.
Comment et pourquoi le slow a commencé de s'épanouir à la fin des années 50, donc après la guerre et après le baby-boom?
Alors,
Je vous présente Christophe April. Christophe April est danseur et sociologue. À la fin des années 50, quand le slow est né...
La jeunesse prend conscience d'elle-même. Et puis aussi, la jeunesse devient un segment de marché pour le capitalisme. C'est-à-dire que la mode, qui jusqu'alors s'adressait plutôt à des adultes, commence à s'intéresser à des jeunes adultes. La mode au sens large, hein, la mode vestimentaire, mais aussi la mode musicale, mais aussi les médias, mais aussi la publicité, vous voyez, tout l'appareillage qui s'adresse à ce segment de marché. Et puis d'autre part, la jeunesse se rend compte qu'elle aspire peut-être à d'autres manières de se rencontrer, de vivre... l'amour, de vivre la sexualité, de vivre le flirt, de vivre simplement la relation au même sexe, à l'autre sexe, en dehors des codes moraux de cette époque, qui demeurent très, très stricts, très codifiés, très encadrés. Dans la plupart des milieux sociaux, pas dans tous, il était totalement inenvisageable d'avoir un rapport sexuel, une relation sexuelle, avant les fiançailles ou avant le mariage. Et au bal, en revanche, il y avait une pratique développée qui consistait à pouvoir se rencontrer, se toucher, être dans les bras de l'autre, sous la surveillance des aînés, sous la surveillance des plus âgés, d'un oncle, d'une tante, d'un père ou d'une mère. Mais cela demeurait possible.
C'est pas un peu fatigant de danser toujours avec les mêmes garçons, de voir toujours les mêmes têtes?
Comme dirait Brassens, toujours le même nez dans la même figure.
Oui. C'est pas un peu fatigant?
Non, s'il danse bien, non, c'est très agréable.
S'il danse bien, mais est-ce qu'il y a beaucoup de garçons qui dansent bien? Franchement, personne ne vous écoute.
50%? This is dedicated to the one I...
Alors, le slow est directement relié à une mutation de l'éveil sexuel. On est vraiment dans cette perspective-là d'éveil sexuel, d'éveil d'une sensualité qui n'est pas non plus que sexuelle. Et le slow est révolutionnaire parce qu'il n'y a pas de code de danse dans le slow. C'est la non-danse par excellence, c'est-à-dire que vous connaissez l'adage, même si l'on ne sait pas danser, tout le monde peut danser le slow. Ce qui est loin d'être vrai néanmoins.
Ah ouais ?
Bah oui, parce que toutes les personnes qui racontent leurs souvenirs de slow, la plupart en ont des souvenirs effroyables, qui durent...
De râteaux.
De râteaux. Au-delà du râteau, aussi d'échecs sur la piste. Je donne un exemple pour les jeunes filles, c'est par exemple avoir une poitrine qui se développe, mais de ne pas savoir comment, quoi en faire face au corps de l'autre. Pour un homme, avoir une excitation, une érection, mais ne pas savoir comment la négocier face au corps de l'autre, alors qu'on est assez proche. Pour les deux partenaires, c'est par exemple une relation à la sudation. Le corps de l'autre nous émeut, forcément. Le corps de l'autre nous plonge dans une émotion que nous ne contrôlons pas toujours. Et la sudation peut en être la trace. Et donc comment négocier les mains moites, les taches sous les aisselles. Donc il y a toute une relation dans cette danse, mais comme dans beaucoup de situations d'interaction sociale, à la gêne et à la honte. Les uns et les autres, femmes et hommes, ne savent pas très bien où mettre leurs mains. Donc là, de ce côté-là, il y a une parité, mais qui vient aussi d'une espèce d'absence de codification de comment mettre les mains. Donc on peut trouver une gêne partagée de la jeune fille et des jeunes hommes qui, est-ce que je vais mettre les mains sur la naissance des fesses? Est-ce que je vais mettre les mains à la taille? Qui est une zone quand même qu'on ne touche pas habituellement dans les relations de travail, entre collègues. On ne se met pas la main à la taille. Est-ce que je vais mettre les mains dans le dos? Le dos n'est pas une zone érogène traditionnellement, mais est une zone de nos corps très mystérieuse pour nous-mêmes. Mais le dos de l'autre est aussi une zone qui ne va pas de soi. Donc de ce côté-là, il y a une parité dans la difficulté à toucher le corps de l'autre.
Et c'est pour ça que les codes musicaux du slow exigent souvent une intro, plus ou moins longue, comme un préliminaire musical au toucher, à la sensualité à venir. Quand on a préparé cette émission avec Coy Nguyen, on s'est rendu compte que dans les grands slows, l'intro faisait l'objet d'une attention particulière. D'ailleurs, ces grands slows se reconnaissent dès les premières secondes. Il y a ça, par exemple. Vous vous souvenez ? Ok, Prince, Purple Rain, un autre. Pour ceux qui s'énervent de ne pas trouver, c'est Lionel Richie, Hello. Allez, un dernier, et après j'arrête.
On aurait pu se dire...
Patrick Bruel, donc. Au siècle dernier, un slow, c'était une fille et un garçon. La question était alors de savoir qui prenait l'initiative d'inviter l'autre à danser.
Le bal, à l'image de la société, est un milieu social très patriarcal, où la domination masculine, ou ce que d'autres nommeraient l'hégémonie masculine, est omniprésente et très forte. Quoi qu'en disent les danseurs de bal, l'homme a toujours le beau rôle.
Pourquoi ? C'est l'homme qui guide.
Il y a encore aujourd'hui des milieux de bal où les pratiquants vous disent « Non, attendez, c'est l'homme qui invite. » Moi, une femme qui vient m'inviter, je lui dis systématiquement non. Pour bien lui faire sentir que c'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'on en...
Mais est-ce que le slow est le début d'une prise d'initiative des jeunes filles pour danser? La fille peut prendre l'initiative et assumer de choper, quoi. De dire « je vais t'inviter » parce qu'il y a le fameux quart d'heure américain.
Oui, mais le quart d'heure américain qui est souvent mis en avant est justement l'expression de cette domination masculine.
Parce que c'est un moment, c'est une parenthèse, quoi.
Absolument.
Après, on revient à la normale.
Absolument. C'est une parenthèse, c'est un peu le carnaval des femmes au bal. C'est aller, pendant un quart d'heure, vous avez le droit de vivre votre vie de manière franche et émancipée. Et puis après, ce quart d'heure, attendez, chacun rentre chez soi, à sa place.
J'étais sur la banquette, et Christophe April, face à moi, avec son masque autour du cou comme un collier. On s'est levé pour quitter le café et on s'était donné rendez-vous.
Bon.
C'est là que nos chemins se séparent.
Oui.
Bonne suite, merci beaucoup.
Hein. Merci à vous. Au revoir.
me retrouvais donc seule, dans les rues, l'âme en peine. Reverrai-je un jour Christophe April ? Vous le saurez en écoutant Pop & Co. jusqu'à midi.
Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. And I need your loving like the sunshine. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your love.
Les slow, grandeur et décadence, c'est Pop & Co ce matin. Et on dirait que nous serions un jour de l'année 1967, un soir de décembre vers 22h. Rendez-vous au studio Barclay de l'avenue Hoche. Toute la pièce est plongée dans le noir. Brigitte Bardot et Serge Gainsbourg se tiennent la main face au micro. Ce soir-là, ils sont sur le point d'enregistrer un slow qui deviendra une balise dans l'histoire du genre, ce qu'on appelle un slow mythique. Et pourtant, il a bien failli ne jamais voir le jour.
Je t'aime, ah oui, je t'aime.
Moi non plus.
Oh mon amour.
Comme la vague irrésolue. Je vais.
Je t'aime moi non plus, et le slow déclaration d'amour ultime. Dans son autobiographie, Brigitte Bardot parle de sa relation avec Serge Gainsbourg. Elle écrit « Ce fut un amour fou comme on en rêve. Il passait ses nuits à composer des merveilles sur mon vieux piano Pleyel. Un matin, il me joua son cadeau d'amour. Il pleurait, moi aussi, le piano non plus. » Ça, c'est la légende. Parce que Serge Gainsbourg n'a pas écrit la mélodie de « Je t'aime moi non plus » pour Bardot au départ. Il en avait trouvé les notes 2 ans plus tôt, en 1965, pour la bande originale d'un film qui s'intitule « Les cœurs verts ». En voici la musique. Fin 67, Brigitte Bardot est mariée au millionnaire Gunter Sachs. Gunther apprend que Bardot et Gainsbourg ont enregistré « Je t'aime, moi non plus », une façon de rendre publique leur passion en musique. Alors Gunther est fou de rage. Il menace Brigitte de mettre fin à sa carrière en salissant sa réputation. Et Bardot cède. Elle demande à Gainsbourg de ne pas sortir la chanson. Grand Prince, Serge Gainsbourg accepte, la mort dans l'âme.
Pour la première fois de ma vie, j'écrivais une chanson d'amour. Voilà. Et voilà ce qu'il y en est. Je faisais des chansons cyniques. Et on les acceptait. J'écris une chanson d'amour, on la prend mal.
Pour passer un bon Noël ?
Seul, oui.
Bardot a quitté Gainsbourg. Il sombre. Mais une fois la rupture consommée, il décide de ne pas renoncer à la beauté du slow qu'il a créé. Pour l'interpréter avec lui, il pense d'abord à Mireille Darc, et puis il rencontre Jane Birkin. Birkin n'est pas à l'aise avec le morceau, mais pour elle, il est hors de question que son homme se retrouve dans l'intimité d'une cabine d'enregistrement avec une autre pour cette chanson. Donc elle y va, la trouille au ventre. Et cette trouille la fait chanter très très haut.
C'était en 69, comme son nom l'indique, année érotique. C'est l'Observatore Romano qui a dit scandale, attention. Et ils ont sorti un article criant au scandale, c'était moi non plus, une décadence, etc. Cet article est passé dans les journaux du monde entier. Il y a eu le rush immédiat sur la chanson bannie par le Vatican et ça m'a fait du blé. C'est le Vatican qui a été mon attaché de presse.
Le tremblement de terre de « Je t'aime, moi non plus » va avoir d'autres répliques. Il donne naissance à d'autres slows. En 1975, Anne Sorel publie un morceau dans le même esprit, mais elle joue collectif. Sa chanson s'intitule « L'amour à plusieurs ».
Des amis sont venus prendre un verre, une heure, et nous avons fait l'amour à plusieurs.
C'est Jean-Claude Vanier, compositeur et arrangeur, notamment pour Gainsbourg, qui signe la partition de cordes de L'amour à plusieurs.
Sans chercher pourquoi, sans autre raison que d'aimer un peu à la déraison, l'amour à plusieurs.
D'une musique chaste de la fin des années 50, où garçons et filles se touchaient sous la surveillance des aînés, le slow devient ouvertement sexuel à la fin des années 60. C'est dans l'écrin du slow que le plaisir féminin se fait entendre, mais à chaque fois, ce sont les hommes qui le mettent en scène. Le slow est aussi affaire de langue. Selon moi, la plus idoine, c'est l'italien. Parole de Manzoni. Voici un grand slow de 2020, Immensità, d'Andrea Laszlo de Simone. Domani inizierà
France Inter, Rebecca Manzoni, Pop & Co.
L'émission où la musique raconte l'époque, aujourd'hui, grandeur et décadence des slow.
Marche pas trop vite, ils sont là.
La Boum.
J'ai l'impression qu'il m'a regardé, t'as vu ?
Premier film de Sophie Marceau.
M'a regardé juste le jour où j'ai mis mon sauvet. J'en meurs, je donnerais n'importe quoi pour être invitée à cette Boum, n'importe quoi. Oh, mon Dieu, faites qu'il vienne nous parler, je vous en supplie.
Hé, hey, Vic, venez là.
Hé, hey, oh, attendez-nous.
Ça va ?
Ouais. Il est chouette pour survêtre.
Oh, moi, je trouve qu'il me fait des grosses cuisses.
Faites quelque chose samedi soir ?
Pourquoi ?
Je fais une Boum, vous pouvez venir ?
C'est à quelle heure ?
De 8h à... Ouais, peut-être.
Faut vous donner la réponse quand ?
Oh, bah, ce soir, on a trop de mecs. Alors, si vous venez pas, on doit...
Tu veux y aller, toi ?
Peut-être.
Tiens, appelle-moi ce soir, sans faute, hein.
Ok.
Parce qu'après, ça sera trop tard. Ok ? Allez, salut.
Salut.
Je suis dans le salon de Vladimir Cosma, à Paris. Il a composé la musique de Rabbi Jacob, du grand blond avec une chaussure noire, d'un éléphant, ça trompe énormément. Et là, je suis accroupie dans le salon face à un disque d'or posé sur la moquette. Celui de Reality, le slow que Vladimir Cosma a composé pour la Boum 1.
Vous n'êtes pas masqué alors, qu'est-ce que vous...
Alors, je me masque ? Vous souhaitez que je me masque ?
Non, j'aime bien vous voir. Alors, j'y vais quand même.
Allez-y, je vous suis. On est allé dans le bureau de Vladimir Cosma. Il s'est installé derrière son piano. Dans ce bureau, il y a des cahiers où il note des idées de mélodie depuis toujours.
Je me plonge dans le cahier, je trouve trois notes qui me semblent intéressantes. C'était ça. C'était ça, voilà, c'était uniquement cette phrase-là. En me mettant à travailler, j'ai trouvé la suite qui me semblait encore plus intéressante que le début. C'était le... Cette montée, ça me semblait très, très émouvante et lyrique. Et voilà, c'est ça, le début de cette aventure qui est devenue extraordinaire, puisque c'est devenu un des slows les plus célèbres au monde. Voilà, demander l'introduction qui me semble très importante. J'ai eu beaucoup de refus pour la musique de la part des maisons de disques parce qu'ils trouvaient que c'était trop long et qu'il fallait que je commence directement avec le thème principal, ce que je ne voulais pas parce qu'il me semblait que ce thème, c'est l'aboutissement de toute une préparation émotionnelle, si vous voulez, qui était donnée par l'introduction et on arrivait à l'explosion de ce refrain. La forme de réalité est très originale à cause de ça. Il y a très peu de slow qui commencent avec un couplet et tout ça. C'est une forme un peu ancienne. Dreams are my reality. I like to dream of you.
Est-ce que pour composer ce slow, est-ce que vous avez décortiqué les slows de l'époque ?
J'ai décortiqué, plus que j'ai décortiqué les slows de l'époque, je ne suis pas un musicien qui était spécialisé dans les musiques pop, dans les... J'ai jamais mis les pieds dans une boîte de nuit, j'écoutais du tout ce type de musique. Vraiment, j'aime la musique classique, dite symphonique, ou le jazz. Donc c'était pour moi complètement nouveau,
tout cet univers,
et le fait d'avoir la responsabilité de faire la musique d'un film qui était basé uniquement sur ce type de musique. Donc, quand j'ai eu cette commande, je me suis mis à décortiquer tous les grands slows de 15 ans, des derniers 20 ans, de la même manière qu'on travaille, qu'on étudie une symphonie de Beethoven au conservatoire. La forme, comment elle est faite, le tempo, tout ça, sans vouloir du tout copier ou quoi que ce soit.
Ouais, mais comprendre la mécanique, quoi. Et vous vous souvenez de ce que vous avez écouté à ce moment-là, de ce que vous avez décortiqué ou pas?
J'ai tout écouté, je me rappelle plus comme ça, mais notamment le Honesty de Billy Joel. If you search for tenderness, it isn't hard to find. D'ailleurs, mon titre « Reality » venait comme une sorte de résonance.
Un clin d'œil à Honesty, super chanson.
Voilà, parce que je trouvais que le titre est très important et j'ai demandé au parolier de me faire un titre qui a la résonance, qui a la force d'Honesty et l'originalité. En écoutant tous ces slows-là, j'ai vu notamment que les principaux interprètes des grands tubes de slow étaient des hommes. Il y avait beaucoup, beaucoup plus de chanteurs hommes que de chanteuses femmes. Moi, ça m'arrangeait parce que pour moi, c'était je cherchais en fait la voix du petit ami qui serait celui de Vic, interprété par Sophie Marceau, et je voulais que cette musique le représente en quelque sorte. Et ça aurait été mieux que ce soit un homme qu'une fille, même que maintenant, il n'y a plus de différenciation, on aurait pu prendre une fille, mais enfin, voilà.
En 1980, c'était comme ça.
C'était comme ça, voilà. Donc, je me suis mis à la recherche d'un chanteur bon chic, bon genre, parce que c'était un peu l'atmosphère du film et la couleur du... C'était pas des loubards qui se tapaient dessus et tout ça, c'était plutôt gentil. Et voilà, ça m'a pris presque un an pour trouver mon interprète, une fois que j'ai trouvé le thème, etc. Parce que j'avais des critères un peu personnels. Je voulais même un chanteur qui n'ait pas trop de voix, vous voyez, que ça fasse pas crooner.
Pourquoi vous vouliez pas le côté crooner?
Parce que ma chanson, mon thème est très classique de forme. Et je ne voulais pas que l'interprète lui donne encore l'enfonce dans un côté rétro, crooner. Donc je voulais une voix droite comme un instrument qui est un peu impersonnel, quoi. Voilà, c'est un mauvais chanteur, quoi.
Non. Spéciale dédicace à Richard Sanderson, oui, qui est l'interprète de Reality. Est-ce que la chanson a tout de suite cartonné à la radio?
La chanson a tout de suite cartonné à partir du moment où elle a été diffusée. Mais d'abord, j'ai eu un refus total. Elle a été refusée en programmation chez RTL, chez Europe 1, France Info, tout ça. Donc, on passait pas.
Et pourquoi ça a été refusé, vous savez?
Mais oui, je sais, parce que moi, d'abord, j'avais pas un nom de
compositeur pop.
De compositeur pop rock, parce qu'il y avait tous les groupes anglais et tout ça, on trouvait beaucoup plus cohérent. On n'avait pas besoin de moi pour venir avec une chanson, un slow en anglais, quoi. Donc c'était un refus un peu de snobinard, quoi. Et puis il se fait que je connaissais l'assistante de Drucker, qui était une Roumaine, moi je suis roumain d'origine, et qui était une copine. Je lui ai dit, voilà, c'est une catastrophe, j'ai fait une musique, j'y tiens beaucoup, je crois qu'il y a beaucoup de... Et j'arrive pas à la passer à la radio. Et c'est Je lui dis, est-ce que tu peux pas parler avec Drucker pour voir s'il n'a pas un moyen de... Bon.
Finalement, Michel Drucker fait inviter Vladimir Cosma à la radio. Cosma en profite pour diffuser Reality, et là, le standard explose. Les stocks du 45 tours sont épuisés, au point qu'il s'en vend aux puces au prix de 50 francs. Reality, Slow de la Boom, est un carton en novembre, avant même que la Boom ne sorte sur les écrans pour le Noël de l'année 1980.
À la prochaine.
Ouais, avec plaisir. Bon. Merci okay, encore. Bon,
merci à vous.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir, Vladimir.
Vladimir. Pourquoi je me suis permise de l'appeler Vladimir ? On va le refaire.
Merci encore. Hein. Au revoir, monsieur Cosma.
Et j'étais là, sur le palier, à refaire une prise pour un au revoir face à une porte fermée. Dans l'ascenseur, j'ai rallumé mon portable et je trouvais ce message sur ma boîte vocale.
Bonjour Rebecca, c'est Patricia Menant, l'attachée de presse de Vladimir Cosma. Je vous rappelle ces dates de concert au Grand Rex qui seront donc les 26, 27 et 28 mars 2021. Merci, au revoir.
Concert Vladimir Cosma au Grand Rex à Paris, 26, 27 et 28 mars 2021. C'est noté.
Summer Slow, en tête à tête, on tourne sur nous-mêmes. 45 tours minutes, c'est le disque qu'on aime. Dans ton cou la vanille, dans tes yeux l'océan. Et ta bouche infinie, une voix off dans la nuit. T'es belle en super 8, t'es belle sur tous les plans. Tu veux du slow motion, je crois qu'on se comprend. À deux ou en trio, ça tourne dans nos têtes. On danse pas en solo, y'a comme un air de fête. Summer Slow 88. Écoute ce rythme. Summer Slow en mode repeat. Danse, danse, je t'invite. Summer Slow 88. À NY pour te ramener un grec. J'aurai plus jamais peur, non jamais d'être heureux. Et je te laisserai même me couper les cheveux. Je mangerai le chocolat, je te laisserai la fraise. Je dirai que ça va même quand je suis mal à l'aise. Je tuerai pour te plaire et j'irai en prison. Mais je m'évaderai easy comme un petit papillon. Summer Slow 88. Des sentiments sur thème polant.
Là, je vais vous faire une des annonces à l'ancienne. C'était Summer Slow 88 par un garçon qui se fait appeler le Noiseur sur France Inter. Ça s'intitule Summer Slow 88, mais en fait, c'est un excellent slow de l'été 2020. Ça voudrait dire que le slow bouge encore ?
Alors,
qui va là ? Christophe April, danseur, sociologue et invité vedette de cet épisode de Pop & Co dédié à la grandeur et à la décadence des slows.
La pratique est foutue, effectivement, chez les jeunes, que ce soit les préadolescents, les adolescents, les jeunes adultes. Le slow est complètement... est une danse complètement ringarde. Alors, Comment expliquer ce déclin du slow? Il y a plusieurs hypothèses, mais il y a une hypothèse qui est souvent avancée par beaucoup de gens, c'est de dire voilà, il n'y a plus de slow musicaux. Ce qui ne tient pas, puisqu'il y a beaucoup de groupes contemporains, que ce soit dans le rap, dans n'importe quel type de musique, l'Airbnb, voilà, il y a plein de styles musicaux qui sont des rythmes lents, qui se prêteraient au slow. Il y a une autre hypothèse qui consiste à penser que les applications de rencontres sont venues, donc les modalités nouvelles numérisées de rencontres contemporaines viendraient faciliter la rencontre de l'autre sexe. Alors là aussi, le déclin du slow précède le développement de ces applications de rencontres.
C'est-à-dire que pour emballer, on n'a plus besoin de danser, il suffit d'avoir une appli. Ouais. Mais vous, vous dites que le slow s'est terminé avant, quoi?
Oui, dès le début des années 2000, on voit pointer les signes de sa désaffection chez les jeunes. Et donc, une autre hypothèse consiste à penser que c'est plutôt le rapport au corps qui a changé. Le rapport au corps et le rapport au toucher. La relation au toucher s'est durcie. Soit dans la petite enfance, à l'école, on ne peut plus toucher un adolescent, on ne peut plus toucher un enfant. On le voit bien dans le secteur médical, le toucher du corps du patient n'est plus d'une pratique.
Tout ça, c'est aussi à cause du bruit de fond pour ce qui concerne l'école, la pédophilie, la judiciarisation du toucher, justement, par rapport au harcèlement. C'en est aussi la conséquence.
C'est l'une des conséquences. Et puis l'autre hypothèse, c'est qu'on est aussi dans une société hyper industrialisée, hyper rationnelle. Tout doit être rentable. Et donc, il y a une espèce de mise à distance de l'expérience sensible. C'est pas pour hasard.
Parce que ça rapporte rien.
Ou alors, il faut que ça rapporte. D'où la vogue du développement personnel, du coaching, les stages de yoga, et de PNL et de CNV. Il faut que ça rapporte.
La pratique du slow, moment de sensualité indomptable, aurait donc été battue par l'individualisme, la rationalité, la rentabilité. Mais non. Il y eut encore un dernier sursaut avec une Anglaise. Elle s'appelle Adèle. Une fille avec une voix divine, mélangée à la gouaille des faubourgs de Londres.
I am in New York in a very hot and sweaty and dark artist room here at Sony.
Alors qu'Adèle appartient à la génération des années 2000, une génération qui a grandi au son du rap, elle s'impose au monde entier avec un slow. Nous sommes en 2011. Adèle a 21 ans et elle est sur la scène du Royal Albert Hall. Pieds nus, avec ses fossiles, ses diamants aux oreilles et sa coiffure choucroute, elle chante « Someone Like You ». L'un des plus grands succès mondiaux de ces dernières années. Alors je vous le dis, le slow n'est pas mort. À cause d'un satané virus, le danser avec un ou une inconnue est devenu impossible. Mais ça n'empêche pas d'en avoir envie.
That you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. From the light, I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. Of our glory days, I
hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Royal Albert Hall, will you sing it for me?
Quasiment aucun livre publié sur l'histoire des slows. Christophe April, avec deux P et deux L, en a écrit un, mais il n'a pas encore trouvé d'éditeur. L'appel est donc lancé. Par ailleurs, Christophe April est l'auteur de « Les audaces du tango », petite variation sur la danse et la sensualité, aux éditions Transboréales, et de « Sociologie des danses de couple », paru chez L'Harmattan. Pour l'histoire de Je t'aime moi non plus, je vous conseille l'écoute d'une série magnifique dédiée à Brigitte Bardot, diffusée sur France Culture cet été. Cette série conçue par Simonetta Grigio s'intitule « Des booms et des bangs ». Toutes ces références, autant que la playlist, sont sur le site de Pop & Co. Mais j'oubliais la boom. Revoir le film est toujours un plaisir, non?
Ça fait rien, laissez tomber. De toute façon, vous en avez rien à foutre. Vous pensez qu'à vous. Vous n'êtes même pas aperçu que j'ai paumé ma gourmette en or, que j'ai raccourci ma frange, vous l'avez même pas vu. J'ai plus rien à mettre, j'ai plus de chaussettes dans mon tiroir. Vous avez même plus le temps de me faire réciter mes sons, ni de me faire à bouffer. Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse.
Mais qu'est-ce qu'elle a?
13 ans.
France Inter, Pop & Co, Rebecca Manzoni.
Je me mets en mode avion?
Ouais, moi aussi.
Nous sommes au studio Ferber, studio d'enregistrement à l'est de Paris, avec Claire Pommet, dite Pomme.
Au moins, je suis au courant de rien, mais...
Alors, je vous explique.
Ce jour-là, j'avais perdu mon forfait voyelle, mais je l'ai retrouvé depuis. Je vous explique, disais-je. À partir de maintenant, nous allons entrer dans les coulisses d'un des succès de Pomme. Anxiété, c'est le titre de ce morceau. Et ça fait plusieurs mois que vous l'entendez sur France Inter.
Je suis...
L'album Les Failles, il a été enregistré ici au studio Ferber?
Oui, complètement, il a été enregistré ici en 5 jours.
Ça veut dire que vous êtes allé super vite?
Oui, bah c'était même voulu. Je voulais pas me laisser en fait l'espace de tout le temps perfectionner la musique. Je voulais pas avoir le temps de perfectionner parce que par expérience du premier album, j'étais beaucoup revenue sur plein de trucs. Et en fait, le premier album, je le trouvais incohérent et un peu beige. Alors que là, je savais que... il y aurait des bruits parasites, qu'il y aurait des moments où ma voix serait peut-être un peu fausse, qu'il y aurait des trucs un peu des failles, justement, et c'était ça le but.
En fait, aujourd'hui, il n'y a pas tant d'espace que ça où on peut exposer ses imperfections, où on peut exposer
ses fragilités en dehors de la chanson.
Ouais, ou de l'art en général, mais c'est vrai que... Enfin, moi, ma génération, qui est la génération...
Vous avez quel âge ?
24 depuis un mois. Donc, les milléniaux, comme on dit. Il y a un truc de, voilà, du paraître, d'Instagram, de Facebook, de grandir avec une méga pression sur les épaules et d'être beaucoup dans l'apparence. Et du coup, de déconstruire ça, pour les gens qui ont envie de le faire. Moi, je fais partie des gens qui ont besoin de déconstruire ça à tout prix. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir... aller où je veux un peu avec ma musique et le retour que j'ai il est juste super positif, donc en fait c'est la meilleure manière pour moi justement de parler de ça et de déconstruire l'espèce de perfection.
Les chansons que vous écrivez, elles s'adressent pas à quelqu'un en particulier? Est-ce qu'on écrit une chanson en pensant à quelqu'un?
Cette chanson-là, je l'ai adressée à l'anxiété. Quand je dis tu, je parle de l'anxiété en fait, donc j'ai personnifié l'anxiété. Il y a cette idée du coup d'imaginer que c'est une personne, probablement une dame, genre, et ça m'a ouvert plein de champs de possibilités. Mais anxiété, elle est spéciale par rapport aux autres. Je ne l'ai pas écrite pareil que les autres et tout, ça a été particulier.
Alors pourquoi elle est spéciale ?
Mais parce que moi, je joue principalement de la guitare. Donc quand je compose 80% de mes chansons, j'ai des espèces de mécanismes. Je compose, j'écris en même temps. Je fais un peu toujours les mêmes changements d'accords, toujours les mêmes renversements. C'est toujours un peu dans le même mood, quoi. Et en fait, celle-là, au lieu de composer et d'écrire en même temps, j'ai chanté a cappella une mélodie. Je suis na 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 na. Et après na 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 na. Cette mélodie-là, je l'aurais jamais créée à la guitare, jamais. Je l'ai créée parce que j'étais libre de la créer sans instrument en fait. Et ensuite, j'ai trouvé les accords de piano. J'ai cherché à accompagner ma voix avec le piano.
J'aimerais bien qu'on l'écoute là du coup maintenant en fait.
Tu veux juste le piano ou
ouais.
Tu veux toute la chanson?
Non, attends. D'abord que le piano.
Je vais faire ça. Je suis tech. Je suis techos.
Dec.
Je vais muter. Stem. Faut juste que je sache.
Muter du verbe rendre sourd.
Oui. En vrai, j'essaie d'apprendre pour que ce soit plus des hommes qui fassent les choses à ma place. Donc, boum, je mute. J'espère que c'est ça que je suis en train de faire. Là, c'est écrit CLVR, donc probablement que ça veut dire clavier.
D'accord.
Tu vois.
Ouais.
Et là,
ah oui.
Il y a un petit temps.
Oui.
Il y a un petit temps de latence. Ça va être le verdict. Je vais peut-être passer pour...
Técos.
Je suis une Técos. C'est de ça que tu voulais entendre ?
Ouais. J'aimerais bien un peu plus de volume. Alors là, il y a 43 boutons. Le tout est de savoir lequel.
Mm-hmm.
Técos ou pas Técos ?
Alors attends. Non. J'adore ce moment. Mais c'est parce que... Où est-ce qu'il sort ? C'est dur de savoir... Attends.
Si on doit appeler Guillaume, on aura l'air fine. Hein. Enfin, l'air fin, je veux dire.
Juste parce que je veux pas faire n'importe quoi.
Bah oui, c'est ça.
Mais normalement, il y a un bouton de volume général, tu vois.
Je tente un truc, là, ou
vas-y.
Pas ? Perdu.
J'adore.
Eh. Alors, on va tout recommencer.
Où êtes-vous ? Sur France Inter, avec qui ? La chanteuse Pomme, et pourquoi faire entrer dans les coulisses de sa chanson Anxiété.
Ça va, le son c'est assez ? Je vais pas le monter plus.
Je vais vous dire.
Je suis au max. Et d'ailleurs, l'orgue que j'ai joué, il est juste derrière ici.
Je suis cachée au bord des larmes.
Cette chanson, entre la voix et le piano, elle tient toute seule.
Dans tout l'album, j'ai cherché à faire le moins de choses possible, dans le sens où je voulais que chaque élément ait sa place et je voulais pas qu'il y ait de fioritures et de choses inutiles. Donc j'ai besoin de minimalisme, j'ai besoin d'entendre le texte, j'ai besoin qu'on mette juste l'essentiel et que le tout soit organisé autour de la voix et de la guitare ou du piano, quoi.
Ok. Et moi, je voulais qu'on écoute le rythme.
Oui.
Parce que c'est un rythme assez particulier.
Oui.
Alors, on trouve la piste.
Oui. Percussion que je vais démuter. On va voir si ça suffit.
Ok.
Je vais les monter aussi. C'est ça, hein ?
Ouais.
Ça sonne bien tout seul aussi, hein ? J'avais jamais écouté les pistes séparées, c'est... En plus, on a fait un vrai travail sur la couleur des percussions.
C'est-à-dire... On va arrêter.
Mais moi, j'aime pas trop la batterie dans la vie. Et je suis arrivée au studio et j'ai dit au musicien, il y avait un batteur, et je lui ai dit, je veux pas que tu joues de batterie, donc tu apportes tout ce que tu veux, sauf ta batterie. Et Albin, Albin de la Simone, il aime beaucoup travailler justement avec des batteurs justement qui ont un peu cette créativité-là, de se dire, bah ok, donc j'amène pas ma batterie, donc j'amène des pièces de monnaie, j'amène mon clavier d'ordinateur.
Des pièces de monnaie.
Okay. Des pièces de monnaie, ouais. Y a, pas dans cette chanson-là, mais il y a des chansons sur l'album où il y a des sons de clavier d'ordi, comme ça, il y a. Qu'on entend ici. Il y a des pièces de monnaie, il y a des poubelles, enfin, il y a plein de trucs. Et je voulais que les percussions, pour le coup, je voulais que ce soit un élément décoratif et qu'on concentre toujours sur la voix et sur le piano et qu'on puisse les enlever aussi tout le temps.
Alors, c'est un élément décoratif, mais ça fait une pulsation, un peu comme un battement de cœur.
Oui.
Et il y a un côté vachement primitif.
Ouais, ouais. Bah, en fait, c'est toujours la même chose, cette rythmique. Et il y a un côté horloge, moi, je trouve un peu. Il y a un côté.
Le temps qui passe.
Voilà. Il y a un côté un petit peu angoissant aussi, parce qu'il y a un côté où c'est toujours la même chose. Il y a toujours ce clac qui arrive au même moment. Mais chaque son a été travaillé dans le sens où, à chaque fois qu'on enregistre quelque chose, moi j'avais toujours une idée, une couleur en tête pour les percussions, et on a souvent rajouté des effets après. Quand on entend le boom, on entend qu'il y a une saturation, il y a une espèce de prrr, et le clac, on l'a changé la tonalité, on peut le monter ou le baisser avec des logiciels. Tu me dis?
Ouais, on peut arrêter.
Voilà.
Et ce que j'ai voulu écouter aussi, c'est l'a cappella.
Ah oui, alors que la voix.
Ouais.
Que la voix.
Je suis.
Ah là, on entend le piano, là.
Alors, je suis prête à parier qu'on aura un peu de piano, parce qu'en fait, l'effet qu'il y a sur ma voix, qui est donc le vocodeur, qui est comme un genre de robot harmoniseur de voix. Donc en gros, le vocodeur, il crée des harmonies autour de la voix de manière très robotique. Et le piano et le vocodeur, ils sont indissociables. On pouvait pas mettre de vocodeur s'il y a pas de piano, parce que le vocodeur, il a besoin d'un accord d'instrument pour pouvoir trouver les bonnes harmonies, quoi. Ça a été enregistré comme ça. Et le je pense qu'on va l'entendre un peu, malheureusement. Je vais essayer, mais...
Je suis.
On l'entend.
Qu'on ne voit pas.
On l'entend pas beaucoup, mais on l'entend.
Je suis celle qu'on n'entend pas. Je suis cachée.
Pourquoi vous avez voulu mettre un vocodeur, un truc un peu robotique? On a l'impression que votre voix, elle est un peu voilée.
Ouais. Pour faire chier Albin. Non, je regarde, c'est pas vrai. Non, Albin, il voulait pas qu'il y ait de vocodeur. Il me disait, what? Du vocodeur?
Albin de la Simone, Albin qui la a donc produit l'album.
À chaque fois, j'oublie de dire son nom de famille parce qu'il a un trop long nom de famille. Du coup, ça, on perd du temps.
Oui, c'est sûr que Pomme, ça va.
Ouais, ça va plus vite.
Et donc, vous disiez, pour faire chier Albin.
Oui, mais non, c'est pas pour ça. Mais par contre, j'ai dû le convaincre parce qu'il trouvait que c'était une mauvaise idée. Mais parce que le vocodeur, moi, ça fait partie de ma culture musicale, vraiment. Et je me souviens de cette chanson de Imogen Heap, je pense, qui est avec du vocodeur.
Where are we? What the hell is going on? The dust has only just.
Pour moi, il y a un truc qui me fascine dans la musique, c'est qu'aujourd'hui, en 2020, on peut mélanger de la guitare avec du vocodeur, si on a envie, et du piano avec du vocodeur, et des styles de musique complètement différents. Et le vocodeur, c'est... Bon Iver, par exemple, l'utilise énormément. C'est légitime, en fait, dans tous les styles de musique.
Bon Iver, qui est un artiste américain qui a participé à l'invention du folk électro, quoi.
Voilà. Et ça fait partie des catégories de musique qui me touchent le plus et qui m'inspirent le plus et que je trouve le plus incroyable, parce qu'il va mélanger des guitares, des banjos avec des moments beaucoup plus électriques. Et je savais que j'avais envie de faire une expérience avec du vocodeur sur mon album, donc je voulais essayer. Et en fait, quand on l'a mis sur cette chanson, c'était hyper naturel, quoi. Je pense que j'étais une enfant extrêmement sensible et pleine d'émotions, et le monde extérieur m'a fait comprendre que c'était pas ok, en fait, et que j'étais trop j'étais trop plein de trucs. Et du coup, je pleure pas beaucoup, je dis pas trop comment je me sens, je me renferme vachement vite, alors que j'encourage les gens à pas faire ça. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai écrit cet album, et ça m'a aidé vachement d'ailleurs.
Les failles, c'est le titre de l'album de Pomme, dont il existe une réédition intitulée Les failles cachées. Les prochains concerts de Pomme sont programmés en mars 2021. Une nouvelle tournée commencera le 11 à l'espace 93 de Clichy-sous-Bois. Pop & Co, c'est Coy Nguyen à la réalisation avec Tristan Gratalon à la console ce matin. Ilinka Negulesco assure la préparation de l'émission et on prend tous les conseils musicaux de Jean-Baptiste Audibert. La semaine prochaine, Pop & Co sera Pop & Rita, une heure ou presque, consacrée au Rita Mitsuko avec Catherine Ringer.